Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
En fait, c'est pas j'ai peur d'un truc précis, c'est j'ai peur tout le temps. Et j'ai compris pourquoi. C'est pas parce que j'avais peur, c'est parce que j'étais triste que ma mère soit morte, mais que j'avais pas pu la pleurer suffisamment. Et du coup, le corps, il exprime autrement. Il fait « Non, va pas bien, écoute-nous » et bref. Et donc, en pleurant ces trucs-là, à chaque fois, bah, en fait, le taux d'anxiété diminue et c'est un bonheur.
Nouvel épisode enregistré en public au Culture Fest avec l'historienne et youtubeuse Manon Bril. Pour les deux ou trois qui ne situent pas, Manon a lancé sa chaîne YouTube « C'est une autre histoire » il y a quelques années. Elle y propose de la vulgarisation. Au départ, c'était plutôt sur l'histoire et la mythologie. Et puis au fur et à mesure, elle s'est penchée sur de plus en plus de sujets très différents. Ça va de Picasso au film érotique nazi, donc vraiment c'est très large comme spectre. Et puis, elle ne se cantonne pas qu'à YouTube, puisque récemment, elle s'est lancée sur scène. Vous pouvez la retrouver sur pas mal de plateaux d'humour à Paris. Et à la fin du mois de mai, elle a même organisé son propre festival, le Culture Fest, auquel elle m'a invité pour faire des blagues et enregistrer un épisode des gens qui doutent en public. Et moi, bah, j'en ai aussi profité pour la recevoir, elle, dans le podcast, pour qu'on puisse parler de plein de trucs, de pourquoi elle aime l'histoire, de légitimité, de comment rester une bonne personne quand on évolue dans un milieu comme YouTube où il y a beaucoup d'ego et de concurrence, de sa méthode pour préparer les vidéos, de ses débuts sur scène, de comment la tristesse qu'elle avait réprimée après un deuil s'est transformée en une angoisse permanente. Et puis elle me raconte aussi le truc le plus bizarre qu'on lui ait jamais proposé sur Instagram. Et vraiment, c'est assez fou. J'espère que ça vous plaira. Tout le monde est prêt?
Oui.
Tout le monde a fait son petit pipi? Trop bien. Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va bien.
Je suis fatiguée, mais je suis heureuse.
C'est de la bonne fatigue.
Ah oui, c'est de la bonne fatigue. Ouais, carrément.
Avec un blaze comme Manon Bril, pourquoi tu t'es pas lancée dans l'humour?
Attends, j'arrive. Je suis en train de commencer l'humour. Tu sais que c'est un pseudo? Tu le savais ou pas?
Oui, oui. Oui, quand même.
Non, mais parce qu'il y a plein de gens, c'est mon commentaire numéro un sur la chaîne, les gens qui font « Bah dis donc, tes parents, ils sont pas sympas. » Mon papa, il est là, juste, mais
ah, il
a le dos
pas,
tourné.
Ah,
ça y est, regardez. Coucou, papa.
Pourquoi l'histoire?
Parce que, alors à la base, moi j'ai fait un bac S. Tu sais, les bons élèves que tu sais pas ce que tu veux faire, on te dit, papa te dit, va en S. Voilà. Et en fait, j'ai fait juste une prépa littéraire après le bac parce que je voulais faire une école de dessin animé, ce qui n'est jamais arrivé du coup. Hein. Et du coup, j'avais mis sur ma liste de vœux de... Tu sais, on faisait, parce que maintenant, ça a l'air d'être l'enfer pour avoir des trucs après le bac, mais bref.
Un boulot?
Un boulot, notamment, et même juste pouvoir être inscrit là où tu souhaites après le bac, malheureusement. Et du coup, tu faisais une liste de vœux de... Mon premier choix de prépa, c'est ça, et après, c'est ça, c'est ça. Et moi, j'avais mis une prépa littéraire avec l'option art plastique en me disant, de toute façon, j'aurais jamais vu que j'ai un bac S, et que des prépas bio. Eh bien, j'ai eu la prépa littéraire. Donc, je suis partie en prépa littéraire et il y avait des profs d'histoire qui étaient géniaux. Ça se passe souvent comme ça. Et du coup, j'ai pas du tout fini la prépa. J'ai pas du tout fait école de dessin animé. Mais après, je suis partie en fac d'histoire. Après la prépa. Ok.
C'était donc, flou, hein, comme réponse.
Je vois. Ouais, mais surtout, moi, vu qu'on n'a pas le même système en Belgique, ouais, pour moi, si oui, tu pourrais pas, inventer, ouais.
Je me dirais, ben, c'est
alors,
super.
Une réponse bien moins. Juste, j'ai eu des profs géniaux qui m'ont donné envie.
C'est pas frustrant l'histoire parce que moi, en fait, je regarde des trucs historiques comme je regarde des séries, mm-hmm. et donc il y a un côté genre, je sais ce qui se passe, donc ça me saoule, tu vois. J'ai été spoil. Et je regarde ça un peu comme si. Les, tu vois, quand tu regardes un film d'horreur, ouais. et que t'es là, non, ne va pas là, ouais. genre non, ne fais pas confiance à Hitler, tu vois.
Là, tu parles des quand tu regardes un film ou un truc ou une série basée sur un truc historique.
Ouais, ou même mes cours d'histoire et tout. T'es là, ben je connais la fin, tu vois.
Bah, on connaît pas toujours la fin quand t'apprends en histoire. T'apprends du coup, tu découvres. Par contre, moi, mater des films historiques et tout, ça me fait royalement chier. Genre perso, en général, j'aime pas du tout. Tu vois, vraiment, mmh. c'est en plus c'est souvent pompeux parce que c'est l'histoire et tout, nanana. Alors que j'adore quand Tarantino il fait mourir Hitler à la fin du film. Spoiler. Mais wow. genre ça, c'est trop. Non, mais ça, je trouve ça trop cool. Alors que
engagé.
Ouais. Oh, ça, dis donc, sacré engagement. Genre là, vraiment, il a pas eu peur de prendre des coups et de dire les trucs. Le nazisme, c'est mal. Wouh.
Mais très de droite.
C'est le nazisme, c'est assez de droite. C'est vrai, plutôt. Mais bref, du coup, non, l'histoire, au contraire, bah oui, si tu connais les grandes lignes que t'as entendues à l'école, tu sais comment ça finit, mais il y a un milliard de choses à découvrir et tout. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, j'en ai un petit peu parlé sur scène tout à l'heure, mais c'est à quel point, quand tu te penches dessus, tu te rends compte de comment des trucs qui nous paraissent hyper acquis et innés aujourd'hui, ça bouge en permanence et c'est mouvant. J'ai dit ces mots-là tout à l'heure, tu vois, je me répète, mais l'humain, c'est vraiment un mouvement permanent. Et donc, tous ces trucs où on dit « Oui, mais ça doit être comme ça, parce que c'est comme ça que l'homme, il est, et tout », c'est faux, tu vois. Genre, vraiment, t'as toujours des contre-exemples à travers l'histoire en permanence. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est souvent plutôt inattendu par rapport à ce dont on a l'habitude, qui sont... les quatre trucs que t'as entendus à l'école ou ce qu'on nous bassine tout le temps avec les histoires grandioses des États, tu vois. Oui, on a entendu mille fois notre victoire à telle bataille et tout, mais ça, on s'en tape un peu. C'est les États qui font de l'histoire de ça pour glorifier leur image, tu vois. C'est vraiment le roman national. Mais en vrai, quand tu creuses, tu découvres des trucs genre « Ah bah, les archéologues... ils ont mis beaucoup de temps à comprendre que ce squelette préhistorique qui avait l'air super robuste et tout, super carré, ils se sont dit forcément c'est un mec et il a plein d'ornements dans sa tombe, donc ça doit être un chef. Donc si c'est un chef, c'est un mec. Et en fait, un jour, il y a un fœtus dans le squelette et on fait ah ok, c'est peut-être pas un mec du coup. Et du coup, enfin tu vois, tous ces trucs-là dont on parle un peu, enfin on en parle de plus en plus, mais un peu moins à la base, parce que c'est pas aussi dans les cases du discours qu'on veut servir aujourd'hui, mais ça, c'est fascinant, tu vois. Et c'est sans fin. Comme, j'en ai parlé tout à l'heure, tu n'étais pas là, mais autrefois, à Rome, on faisait caca en groupe. Il y avait des latrines collectives.
Un, deux, trois.
Non, mais t'imagines, en vrai.
Ouais, 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 ouais.
T'imagines,
Non. Ouais.
Non, mais en vrai, je trouve cet exemple, il est incroyable. C'est-à-dire, c'est un fait banal. Il y a 2000 ans, c'est normal, c'est banal. Il y avait des latrines collectives, tu vois. Donc, t'allais aux toilettes publiques et tu discutais aux toilettes et tu faisais tes besoins. Et c'était normal. Et vraiment, aujourd'hui, c'est le dernier truc qu'on peut faire socialement, tu vois. C'est pas du tout... voilà. Ou encore une fois, on va pas aux mêmes soirées, mais voilà. mais bref. Et ça, en vrai, je trouve ça ouf, comment un truc qui est si... ancré et c'est comme ça aujourd'hui, faut pas péter, faut pas nana, enfin surtout si t'es une fille et blabla. Bah il y a 2000 ans en fait, on faisait ça en groupe et c'était pas
des
un chorales, sujet
quoi.
Ouais. Non mais tu vois, enfin bref, ouais. Tous ces trucs là, je trouve ça génial. Et du coup en fait, on sait jamais comment ça va finir, on est toujours surpris par dès qu'on gratte un milliard de choses.
Mais je suis très agréablement surprise qu'on parle de paix en moins de 5 minutes.
Oui, voilà. Bah ça écoute. Voilà, c'est un peu la fabrique de la maison, oui.
C'est pas particulièrement difficile de s'intéresser à l'histoire quand on est fort sensible aux questions féministes et tout.
C'est douloureux, mais pas difficile. Mais ouais, si c'est pénible pour un milliard de raisons, et en même temps, c'est cool aussi parce que pareil, tu te rends compte de. Mais en fait, il y a 1000 meufs badass qui ont fait des trucs de fou que juste on en a pas parlé parce qu'on s'en tape ou qu'on a voulu effacer ça.
Et en fait, il y avait vraiment quand même plein de meufs qui faisaient des trucs de fous, même si évidemment elles n'étaient pas la règle parce que la société était encore plus contrainte qu'aujourd'hui. Et encore, ça dépend quand. C'est pareil, ça dépend quand et tout, mais à partir du 19e siècle notamment, c'est particulièrement sexiste et tout. Et donc en fait, en vrai, c'est un peu passionnant aussi de se rendre compte que malgré ce contexte difficile ou malgré ce qu'on croit tout court, il y avait aussi des meufs dirigeantes de ouf ou qui faisaient plein de trucs qu'on n'aurait pas imaginé que c'était possible qu'elles fassent, je sais pas moi, au Moyen-Âge ou après ou machin. Et en fait, ça existe aussi, tu vois. Donc c'est aussi réjouissant, même si il y a plein de trucs où tu fais « Ah !» Mais oui.
C'est long comme réaction.
Titre Non.
Alors moi, je repartais sur l'histoire de latrine collective, mais...
Oui, aussi.
Mais oui. T'aimes pas lire?
Non. Sauf ton livre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je l'ai lu.
Suceuse.
Non, c'est vrai en plus. C'est vrai, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé ton livre et je l'ai adoré. Et je lis pas beaucoup, à part pour le travail. Du coup, je lis beaucoup toute la journée pour le boulot. Et je suis une mauvaise lectrice, il faut beaucoup que je me concentre, je décroche tout le temps. C'est douloureux pour moi la lecture. Et du coup, je lis pas pour le plaisir, très peu. Et je suis en retard sur tous les essais féministes, justement, tout ce qu'il faudrait lire et tout. Donc j'ai un petit rituel de le matin avec mon café. Maintenant, je lis 2-3 pages parce que c'est le seul moment de la journée où j'ai le cerveau un peu frais pour bien vouloir me concentrer. Mais sinon, je passe, genre vraiment, tu sais, mes yeux, ils balayent la page. Et en fait, j'ai pas entendu ce que j'avais lu, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup d'efforts et c'est pas un plaisir. Ça a toujours été comme ça. Hein. C'est, alors, les écrans et tout n'ont pas facilité le truc, ça c'est clair. Mais même enfant, j'étais comme ça. Et à part des livres qui m'ont vraiment absorbée, il y en a pas eu tant que ça, j'aime pas lire. J'aime pas lire. Vraiment, ouais.
Et du coup, études de lettres?
Mais c'est une douleur. Genre, j'ai écrit une thèse, meuf. Genre, j'ai dû lire énormément de trucs et écrire aussi.
Mais comment
pas écrire non plus.
Enfin...
Mais alors, il y a toujours ce truc de si le sujet il me passionne, du coup, ça m'aspire et tout, ça va. Mmh. Mais c'est vraiment une concentration. Ouais, c'est... Non, c'est pénible, en vrai. Mais c'est un problème, hein, vraiment. Du coup, je suis longue, je suis lente.
Okay.
Je lis 1000 fois les trucs avant de les avoir compris. Voilà. Ouais.
Pour ceux qui savent pas, comment t'es arrivée dans le YouTube game?
Parce que pendant ma thèse, en 2015, j'ai participé à un concours qui est organisé par le CNRS qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Et du coup, il faut...
Pourquoi ils n'ont pas dit 3 minutes?
Parce que ça devait faire très cool de mettre 180. C'est un peu comme autrefois, on disait 2000. Et là, c'est 180. Ouh, c'est mieux que 3 minutes. Je ne sais pas. Écoute, demande au CNRS. Mais non, mais du coup, j'ai participé à ça où, en gros, tu dois présenter ton sujet au grand public en 3 minutes. Et j'ai eu le prix du public à la finale régionale toulousaine.
Oh.
Écoute...
Bonne
mère. Mais oui, non, oula,
pardon,
c'est Marseille.
Je sais pas, pour moi,
attention.
C'est genre le sud.
Attention, c'est vrai que c'est le sud. Mais du coup, en gros, alors ça m'a pas fait gagner pour aller en finale, mais ça m'a donné le. Enfin, en gros, ça voulait dire que la salle avait voté pour moi en majorité. Donc je me suis dit, il y a peut-être un public pour ça. Ensuite, avec un pote, Barthélémy, qui est par là quelque part, je sais pas si. Bref,
toujours
que j'embrasse, qui est toujours mon réalisateur aujourd'hui, mon caméraman. On a fait une petite vidéo qui présentait des curiosités de la ville de Toulouse que, en tant que Toulousain ou Toulousaine, peut-être tu vois pas alors que tu passes devant tous les jours. On a appelé ça Toulouse au détail, genre c'était des petits machins, des petits détails, tu vois, que tu calcules pas et qui contiennent de l'histoire. Et c'était inspiré d'ailleurs du format de Patrick Beau qui est là aussi.
Il est pas mort, hein. C'est juste, il est en haut.
J'ai levé la main au ciel parce qu'il est juste au premier étage, ok? Et qui fait une émission qui s'appelle Les étranges escales. Et qui dit, en gros, il dit, bah, ok, tout le monde connaît New York, même si t'es jamais allé à New York, même si t'y es jamais allé, tu vois la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, parce que tu l'as vu dans les films et tout, je vais vous montrer autre chose que tous ces trucs-là.
La criminalité.
Ça, on le voit beaucoup.
Pardon,
aussi,
oui,
quand même.
Vrai,
mais du coup, j'ai fait, ah, mais trop bien, on va faire ça avec Toulouse. Et ça a fait un petit buzz local, écoute. Non, mais au début, je l'avais posté que sur Vimeo. C'était pour faire un...
Ouais. Obscur. Ouais. Hein. L'ambition.
Non, mais c'est juste parce qu'en gros, on avait fait cette vidéo pour répondre à un concours vidéo que ma fac organisait sur les 2 millions de la ville de Toulouse. Bref. Et une fois le concours passé, qu'on a gagné d'ailleurs, voilà.
Là,
je dis ça, je dis rien. Je poste la vidéo sur mon compte Vimeo où il y avait mes vidéos de vacances de snowboard avec ma famille et mes
Est-ce
amis.
Est-ce qu'elles ont eu un droit à un petit buzz également après ça? Non.
Okay. Heureusement, les pauvres. Parce que mon montage n'était pas incroyable. Bref. Et je le mets sur Facebook pour montrer aux copains. C'était juste une plateforme pour le mettre en ligne où j'avais un compte. Et donc, ça s'est emballé. La presse locale, la Dépêche, tout ça, a fait des articles qui s'appelaient genre « Cette Toulousaine connaît mieux Toulouse que vous ». Et là, je peux te dire que les Toulousains, super chauvins, ils ont fait « Pas du tout, je vais regarder cette vidéo. Ah si, j'ai appris des trucs. » Bref. Et en une semaine, il y a eu 80 000 vues sur Vimeo, alors qu'on était son père. Excusez-moi, mais ce sera 1 million sur YouTube, tu vois. Donc on a dit avec Bart, putain mais faisons une chaîne YouTube avec des sujets qui sont plus ma spécialité. Et du coup c'est encore aujourd'hui Bart qui tient la caméra, figurez-vous, sauf que maintenant je peux le payer, contrairement
Allez,
à l'époque.
Beau gosse.
Ouais, c'est cool, carrément.
Quand t'as commencé à faire de la vulga historique sur YouTube, comment ça a été perçu dans le milieu académique qui est un peu plus... Voilà.
En vrai, bien, ça va. Franchement, ça va. Ça va, genre, déjà c'est pour ça que j'ai mis le pseudo Manon Bril et pas mon vrai nom, Manon Champier, qui n'est pas du tout un secret. Chaque fois que je le dis, il y a quelqu'un qui me dit « Attention, on a vu ton vrai nom !» Oui, il est sur ma page Wikipédia, donc il n'y a plus de secret.
Qui a écrit dans Wiki?
Je ne sais pas.
Parce qu'il y a vraiment des infos.
Ah oui, j'ai pas regardé.
Non, mais des infos, genre t'as fait les scouts.
Ah oui, les éclaireurs, éclaireuses de France, attention, oui, bah, les scouts laïcs, s'il te plaît. Pas d'uniforme, attends, pas de religion. Calme-toi.
Attends, les scouts sont religieux?
Les scouts sont religieux, globalement, oui. Tu savais pas?
Ben non.
Ah oui, ça va à la messe et tout. Alors, il y a...
Oui, bien sûr.
Après, il y a plein de mouvances et de branches et de religions différentes, d'ailleurs. Mais les éclaireurs et éclaireuses de France, du coup, c'est laïque. Voilà.
Ben, je vais m'y inscrire.
Ah ben, je t'en prie. C'est trop bien.
Du coup, ton vrai nom, tu l'as pas mis?
Voilà, j'avais pas. C'est pour ça que j'avais mis un pseudo en me disant, comme ça, les gens de la fac, ils vont pas. Ils font pas.
Ellipse.
Voilà. Cut. Franchement, ça a tenu un mois, vraiment. Et j'avais mis ma nombril parce que c'était mon pseudo sur Facebook, parce que Facebook, c'est nombriliste, hein, tu vois. Ouais, voilà, ça vient de là.
Tu dénonces un peu, non?
Autodérision, surtout.
Bon,
bref. Et donc au début, franchement, l'entourage universitaire a été carrément cool. Éventuellement, j'ai entendu c'est pas mon style d'humour, parce que j'entends les grimaces et les blagues de cul. Voilà, ça fait pas forcément rire les agrégés, d'accord. Non, c'est faux, je t'embrasse. Mais bref, en vrai, ça a été très bien reçu. Genre, mes directeurs, directrices de thèse, soit ils s'en foutaient, soit ils étaient carrément enthousiastes. Par contre, là où ça... Au début, maintenant c'est bon, je l'ai moins, je crois que je suis assez installée, ça y est. Mais au début, je me suis pris plus la foudre des passionnés d'histoire qui ont une représentation de ce que ça doit être l'histoire. Mmh. Mais du coup, pas des spécialistes. C'est-à-dire que les spécialistes, au pire, ils disaient « ça me fait pas rigoler ou c'est pas mon style », mais elle dit pas des conneries, parce qu'ils savaient que je disais pas des conneries. Par contre, les passionnés d'histoire, genre notamment le forum... De la page
Alors
Facebook.
Déjà, ça commence mal.
Exactement. La page Facebook de la Fabrique de l'Histoire de France Culture, une émission d'histoire trop stylée qui s'est arrêtée, qui était faite par Emmanuel Laurentin. Vraiment une super émission. Il y avait un groupe avec un public d'âge moyen d'auditeurs de France Culture. Donc, un peu
qui
plus.
Ne sont plus avec nous.
Voilà. Je ne sais pas comment c'est pour vous chez France Inter, mais là, chez France Culture, j'ai l'impression que c'était un peu âgé. Bref, et qui du coup étaient, eux, ils étaient vraiment en mode n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire, parce que je faisais l'andouille en gros. Et du coup, ils arrivaient pas à dissocier forme et fond, et ils disaient bah, si elle fait des grimaces et qu'elle dit des blagues, c'est qu'elle doit dire n'importe quoi. Mais du coup, c'était pas les spécialistes, c'était des gens qui ont une image de comment ça doit être dit l'histoire, comment ça doit être grandiose et tout. On en revient à... Bah, en fait, c'est les gens biberonnés à Stéphane Bern, encore une fois, tu vois, au roman national.
J'avais compris qu'ils se branlaient à Stéphane Bern.
Alors, peut-être, oui. Mais ça les regarde. Mais tu vois, genre, ça doit être sérieux, on peut pas rigoler avec ça. Et si elle fait des blagues, du coup, elle doit dire n'importe quoi. Alors qu'à la limite, tu peux dire, encore une fois, j'aime pas tes blagues, mais c'est pas... Ça veut pas dire que le fond est nul, tu vois. Ça n'a rien à voir. Bref, donc eux, ils étaient véhéments. D'ailleurs, en général, je disais, j'ai un doctorat. ferme ta gueule. Ce qui est, en vrai, ce qui est débile, parce que c'est genre juste un argument d'autorité. Et en plus, dans mes vidéos, je traite pas du tout que des sujets de ma spécialité, mais c'est juste que c'est des gens élitistes ou qui aiment l'élitisme et qui comprennent, enfin, que ça fait taire de dire ça, tu vois. Donc je disais ça, et ils faisaient ah bon, d'accord. Voilà. Mais en gros, c'est plus voilà les passionnés qui ont une image de l'histoire, pas les spécialistes, tu vois. Et en vrai, c'est ces gens-là qui font du mal à l'histoire et qui font qu'il y a plein de gens qui se disent c'est pas pour moi, c'est des codes super, tu vois, académiques, élitistes et tout. Pour moi, c'est ces gens-là qui nuisent à la discipline et au fait que il y a plein d'autres gens qui se disent waouh, mais c'est hyper pompeux, c'est pas fait pour moi, ça, c'est chiant, ça va pas m'intéresser, tu vois.
Et justement, comment toi, t'as réussi à t'affranchir de l'histoire, ça doit être pompeux?
Ben en fait, justement, ben moi, du coup, pendant les premières années, donc j'ai commencé pendant ma thèse, et j'ai commencé en 2015 et j'ai fini ma thèse en 2018, tu vois. Et du coup, justement, c'était un espace de respiration, en mode, je vais parler d'histoire, mais de la façon dont j'ai envie. Encore une fois, le fond, il est solide, il est carré, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas rigoler, tu vois, ou qu'on peut pas dire des gros mots. Et je voulais un espace où je pouvais parler... pas comme dans les colloques ou à mes étudiants. Ce qui est normal, hein, tu vois, genre, il y a un discours approprié à un endroit où tu l'aimais. C'est absolument normal que je fasse pas des blagues de cul aux étudiants en cours de TD d'histoire. Non, mais vraiment, tu vois, genre, c'est pas approprié. Ou dans un colloque d'universitaire, on fait pas ça. Mais par contre, ailleurs, pour, en gros, avoir un ton de comment j'en aurais parlé à mes potes, là, je pouvais faire ça. Et vas-y, on peut rigoler. Et aussi, on n'est pas obligé d'avoir... des violons en fond, une bibliothèque avec une statuette antique sur le bureau. Enfin, tu vois, genre, tout ça, moi, c'était genre, ah, mais chiant. Enfin, à moins que ça serve le propos. Sinon, la forme, on s'en fout. On fait une forme qui nous plaît. Et du coup, c'était plus urbain ou décalé, tu vois.
Et justement, quand tu t'es... quand t'es passé des sujets purement mythologie et tout ça, des débuts, à quelque chose de beaucoup plus large... t'avais moins cet argument d'autorité de j'ai un doctorat en histoire. Et donc, comment t'as réussi à... Enfin, est-ce que c'est du coup la rigueur que t'as apprise dans tes études où tu t'es dit, OK, si je suis solide là-dessus, je peux être solide sur tout le reste? Ou est-ce que t'as eu ce moment de, OK, elle est où ma légitimité?
Oui, je l'ai. Ah, je l'ai tout le temps, ça. Alors, en gros, maintenant, je travaille avec un documentaliste, Vincent, que j'embrasse, qui est justement agrégé. C'est pour ça que je tire sur les agrégés, alors que... ils sont géniaux, ils travaillent avec moi. Bref.
Not all agrégés.
En gros, et je travaille principalement avec lui, je lui commande de la documentation. Donc je lui dis, mais vraiment littéralement, maintenant je lui dis, je veux répondre à ça. Trouve-moi la réponse. Et fais-moi, et je lui dis, fais-moi 6-7 pages de Word où tu as lu les trucs, tu me mets la biblio et tu m'expliques... Alors des fois c'est des questions difficiles, des fois il y a un ou deux livres qu'on en parlait donc c'est plus facile. Genre là la dernière vidéo que j'ai sortie c'est avec Salomé Sacquet sur comment la jeunesse a été traitée. Enfin Salomé elle vient de sortir une enquête sur comment les jeunes sont traités aujourd'hui, c'est-à-dire mal en gros, vous irez voir. Et moi du coup j'ai dit à Vincent, pour cette vidéo où on invite Salomé qui va parler de son livre, je veux qu'on fasse une première partie où on se pose la question de depuis quand les jeunes sont traités comme des petits cons par leurs aînés. Donc j'ai dit à Vincent, réponds à la question, cherche-moi la doc de depuis quand on dit que les jeunes sont des petits cons. Il y avait un milliard de trucs et tout, donc il a fallu qu'il digue et tout. Ça dépend des sujets, c'est plus ou moins facile à chaque fois. Donc je travaille avec lui. Lui, il est agrégé, ça veut dire que, bah, en vrai, c'est une bête à concours qui a réussi un concours hyper dur d'histoire et qui est capable d'engranger, lire plein de trucs résumés très vite et tout. Moi, j'ai mon diplôme qui fait que j'ai des réflexes d'historienne et tout, même si je suis pas spécialiste du sujet. Et sinon, quand j'ai la chance d'avoir ça, je demande directement à des spécialistes dont j'ai les contacts ou je vois passer des études que je trouve chambées. Là, on est allé puiser dans... une des invitées qu'on avait eue déjà sur le podcast, parce que Vincent, il fait aussi la doc du podcast qu'on faisait avec Alex Ramirez, Oye Oye. C'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs, bref. Et on avait eu une meuf qui travaillait sur ces questions, notamment, tu vois. Et bref, et du coup, je dis à un historien et une historienne, contre rémunération toujours, est-ce que tu peux me résumer ton sujet? On voudrait parler de ce sujet-là. Ou est-ce que tu peux relire mon script? Comme ça, on sait. Ça n'empêche pas des erreurs, hein. Ça n'empêche pas que des fois, on se trompe, que des fois, on... ça va de la petite coquille de date à des fois une mécompréhension d'un truc qu'on a lu. Et dans ce cas, on essaye de se rattraper en mettant un commentaire épinglé ou ce genre de truc, ou en coupant ou en reparlant après. Voilà, parce qu'on est des humains et qu'on n'est pas parfait. Mais du coup, la méthodo, c'est ça. C'est travailler avec des gens qui savent faire et essayer de demander relecture aux spécialistes ou directement, c'est eux qui me font la doc quand je les ai sous le coude et que du coup, je le demande pas à Vincent. Voilà. Mais moi, clairement, je suis spécialiste que d'un truc très précis de ma thèse. Ça va pas tenir une chaîne YouTube Athéna au 19e siècle, c'est ça ma thèse, tu vois. Au bout de trois vidéos, les gens ils vont faire bon, mais c'est bon, on connaît, tu vois. Donc, oui, non, je suis pas du tout spécialiste de tous les sujets que je traite, quoi.
D'ailleurs, si on lit le Wikipédia d'Athéna.
Ouais. Très belle transition, Fanny.
Ouais, j'attendais que ça. Donc, déesse de la sagesse, avait le pouvoir de donner de la sagesse et de l'intelligence aux mortels. Ma question est la suivante. Athéna avait-elle une chaîne YouTube de vulgarisation?
Elle aurait pu, franchement. Ouais, grave. Mais oui, en gros, c'est la... Athéna, c'est une
drag queen en Belgique. Elle est super.
Oui, je sais. Putain, on va parler de ça après, s'il te plaît. Parce que je suis over fan de Drag Race. Et t'étais dans le jury de Drag Race Belgique et je suis trop jalouse. Bref. Mais oui, déjà, big up à Athéna.
On l'embrasse.
En Belgique. Et big up aussi à Edna et Mademoiselle Boop que t'as eu.
Bon, ouais, là,
c'est méta. Bref. Mais du coup, oui, Athéna, en gros, c'est la déesse qui accompagne les héros et qui leur fournit souvent un pouvoir, un accessoire, un truc pour réussir leur quête ou une connaissance. Genre, c'est elle.
C'est l'adjuvant.
Non, mais c'est le mentor. Tu sais que vraiment, mentor, ça vient de là. Parce qu'en gros, elle se transforme en un personnage qui s'appelle Mentor. Donc, il y a un vieux sage pour aider Ulysse dans sa quête. Ouais, elle est un peu drag king. Elle est un peu drag king, du coup.
Pour aider quelqu'un, elle est obligée d'être un vieux monsieur.
Souvent, les dieux, ils se transforment en... Ils prennent une autre apparence pour interagir avec les mortels pour pas que ça leur nique le cerveau, tu vois. Ouais. Genre, ils se font... Pour faire un peu en soum-soum leur bise.
Okay.
Ouais. Voilà, t'as capté.
Est-ce que quand tu bosses dans la recherche, côté docteur en histoire, t'as le droit de douter autant que les autres? Parce que tout est basé quand même sur des faits, souvent. Est-ce que t'as le droit de montrer que t'hésites?
Ah oui, bien sûr, au contraire. En fait, c'est très souvent en histoire qu'on dit... justement, alors, il y a des certitudes aussi. Il y a des trucs où on peut dire, bon, ben ça, on est sûr parce qu'il y a telle source qui le dit, nanana, c'est sûr, machin... Il y a aussi plein de fois où il faut vraiment... En gros, on a deux moments actés et entre, il y a un flou. Donc, c'est aussi dans le travail des historiens et des historiennes de faire des hypothèses de qu'est-ce qui mène de l'un à l'autre. Mmh. Et du coup, dans ce cas, tu es obligé de dire ça me paraît crédible parce que ceci, cela. On en parlera toujours au conditionnel. Ça arrive très souvent vraiment qu'on fasse ça. C'est pas moins intéressant parce que c'est pas acté. Ça, en fait, ça alimente la pensée scientifique de le faire. Ensuite, on va découvrir un autre truc qui va confirmer ou infirmer ses thèses ou jamais. Mais c'est trop. C'est des exercices de pensée et c'est trop intéressant. Mais le doute est obligatoire, tu vois. En fait, tant qu'on n'a pas une source ou un truc qui l'acte, vraiment, on l'utilise tout le temps. On utilise le conditionnel. On peut déduire un peu des pourcentages de certitude en disant on pourra jamais trop le prouver, mais c'est quasiment sûr que c'est comme ça que ça s'est passé parce que
Hitler était de droite.
Ça, on peut pas mal le prouver, par contre. Mais tu vois, on pourra dire ça ressemble énormément à tel schéma ailleurs qu'on connaît, et du coup, c'est fort probable que. On est obligé de dire c'est fort probable que. Mais voilà. Et il y a d'autres fois où on sait pas du tout, et vraiment, on dit. Ah bah moi j'ai pensé à ça, machin à cette théorie, bidule à cette théorie, donc là c'est le doute total, mais c'est pas moins intéressant de formuler des hypothèses pour essayer de produire de la pensée sur ça que, mais voilà, mais juste il faut, l'important c'est de dire ceci n'est pas acté, mais voici les hypothèses auxquelles on pense, tu vois, parce qu'en vrai sinon en préhistoire par exemple, on peut parler de rien presque, tu vois, enfin si, j'exagère, mais genre ça n'est quasi que des, on pense que parce que nana, tu vois.
Est-ce que t'as maté c'est quoi le nom? Planet Kunk? C'est une...
ouais, non, c'est quoi?
C'est sur Netflix, c'est une espèce de faux documentaire où t'as une pseudo-historienne qui est en fait une humoriste qui va poser plein de questions complètement teubées à des historiens, et genre elle donne des explications complètement débiles, genre à un moment elle demande est-ce que la ville de Rome avait un toit? Et que des trucs où tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce que la ville de Rome avait un toit?
Sur toute la, enfin, toi, que des trucs qui n'ont aucun sens.
J'adore qu'elle ait formulé cette question déjà.
Oui, mais et surtout il y avait une, c'était logique. Tu vois, il y avait un truc logique dans son raisonnement. Et voilà, c'est hilarant. C'est son
j'ai pas vu, mais je vais aller voir par contre.
Voilà, c'est super, elle lit que de la merde.
Trop bien.
Et j'adore.
Trop cool. Carrément.
YouTube, tout ça, c'est un milieu où il y a beaucoup d'ego.
Non, je vois pas de quoi tu parles.
Au conditionnel.
Oh. Oui, voilà, le doute avant tout.
Voilà, c'est un milieu où il pourrait y avoir énormément d'ego et potentiellement un peu de concurrence ressentie. Comment on fait pour rester une bonne personne et ne pas céder à ces vieux relents d'ego de...
Est-ce que je suis restée une bonne personne? Ouais, c'est un milieu pas si facile. Hein. Après, j'ai l'impression que l'humour, c'est pas ouf non plus.
L'humour à Paris. En Belgique, c'est bisounours encore, mais Paris, c'est alors. Alors horrible.
Ouais, c'est un... Alors, en fait, il y a un milliard de gens différents, comme d'hab. Il y a quand même un truc de la lumière, ça attire des gens dangereux. Voilà, j'en ai fait les frais. Écoute, c'est dans Mediapart, hein, vous regarderez. Voilà, il y a des gens, il y a des gens
vénères. De la pub.
Non, mais c'est en fait en premier pour moi, c'est ça. C'est pas tellement les égos. Alors évidemment, il y a des rivalités, des jalousies et tout. Moi, ce que je trouve chaud, c'est les mecs dangereux que ça attire vraiment. Il y en a beaucoup.
Et les mecs dans le public, tu veux dire, ou dans les créateurs?
Non, dans les créateurs. Enfin, dans le public aussi, il y a, mais dans les créateurs, ça...
Statistiquement, parmi vous, il y a deux fous.
C'est faux, parce que on les a triés sur le volet. Pas du tout. Non, mais en vrai, c'est ça qui est dangereux pour moi. C'est plutôt les égos. Alors, ça attire des gros égos, mais je mentirais si je disais que je fais pas ça pour l'ego. Clairement, ça alimente le mien aussi. Hein. Clairement, voilà, soyons lucides. Mais je pense que ça décuple des profils qui, de base, déjà étaient un peu fuckés, tu vois. Et ça crée des... En fait, c'est juste que ça crée un... Il y en a certains, c'est un passe-droit illimité pour faire des choses horribles, tu vois, ou pour profiter un maximum de leur statut en toute impunité. Et ça, c'est ça qui est compliqué. À la limite, jouer des coudes parce que nani nana, t'as vu mon gros zizi, regarde mon million d'abonnés, ok. Moi, en vrai, ça, je m'en tape un peu. C'est pas les gens avec qui je traîne parce qu'ils m'intéressent pas. Il y en a aucun dans ce festival, ok. Sachez que je les ai triés sur le volet. Mais par contre, ça crée ça amplifie des gens qui sont des gars, on va le dire franchement. Voilà, qui font « Ah, je peux faire ça ? Ok, je peux tester cette limite ? Ok, je peux faire ça ? Ok, je peux faire ça. » Et comme là, c'est illimité, parce qu'ils ont une tribune, parce qu'ils ont une aura, parce qu'ils ont des fans, ils ont du poids et tout, ils sont en mode « Ok, c'est open bar et tout, je peux faire tout ce que je veux. » Et il y en a pas mal, malheureusement. C'est plus ça le problème, je dirais.
Et toi, vraiment, à titre personnel, tu t'es jamais dit « Putain, là, j'ai... » Genre, moi, je sais, en humour, là, pour le coup... Des fois, j'ai ce truc de jalousie, de genre quand il arrive quelque chose de super à quelqu'un, même si moi je le voulais pas, je me dis putain, pourquoi ils m'ont pas appelé, tu vois. Il y a ce truc de ah, tu vois, t'essayes de.
Si, évidemment. Déjà, le premier truc névrosant, c'est les chiffres. T'es en permanence noté. T'es en permanence noté avec des vues, avec des abonnés.
Oui, ça dépend même pas de toi, c'est l'algo, voilà. C'est machin. Ouais.
Donc, mais en vrai, c'est épuisant, tu vois. Genre, on est tous en train de tout le temps se comparer avec nous-mêmes, avec les stats qu'on a fait par rapport à la vue de la vidéo d'avant et tout. Et même si tu fais, genre, moi vraiment, je fais un taf de me détacher de ça. Mais en vrai, juste c'est là, en fait, c'est sous ton nez, ça conditionne tes partenariats. Moi, je vis de ça, tu vois. Donc en vrai, ça a un impact, que je le veuille ou non. Et évidemment, la comparaison avec les autres, tu vois, elle existe. Et tu dis, putain, moi, par exemple, je regarde presque pas YouTube parce que ça me renvoie le taf, ou alors c'est du contenu très très éloigné de ce que je fais, c'est du pur divertissement ou quoi, parce que quand je regarde un peu ce que font mes potes pour me tenir au courant de ce qu'ils font, mais en fait minimum je fais ah putain il ou elle a fait ça comme ça, ouais c'est trop intelligent, ok, non. En fait ça me relaxe pas, je suis en train de travailler, de faire ah putain malin ce montage, ou je vois les vues et je fais ah putain pourquoi moi j'y arrive plus pareil, ou alors j'ai mieux réussi, mais enfin tu vois. Et ça c'est le mal, les chiffres c'est vraiment le mal, je trouve ça, c'est dur de s'en détacher. Je travaille tout simplement le fait de moins les consulter qu'à une autre période, mais t'es obligé de le faire quand même parce que c'est aussi un indicateur de la santé de ta chaîne, tu vois. Si elle s'effondre, enfin faut quand même capter et peut-être se poser des questions, et ça sert aussi à se remettre en cause et à se dire bon bah là il y a un truc que je fais plus bien parce que les autres ils y arrivent et pas moi. Mmh. Après tu vois, je regarde un peu les tendances générales de est-ce que tout le monde baisse un peu ou remonte ou machin, et est-ce que moi j'ai un comportement de chaîne différent des autres, et dans ce cas peut-être c'est moi qui fais mal un truc. Mais ça, c'est vraiment fatigant, tu vois. C'est comme à l'école où on a tout le temps eu des notes et où, machin, il a eu la meilleure note et moi non, et bidule. Avec le syndrome de la première élève, c'est vraiment désagréable, tu vois. Au lieu de juste te réjouir de, ok, on a pu. En fait, en vrai, moi, ce qui est important, c'est juste, on peut faire tourner l'équipe et on fait rentrer assez d'argent pour payer. Maintenant, j'ai une petite équipe qui travaille avec moi, tu vois, donc il faut quand même alimenter tout ça. Ça implique de faire des publicités. Du coup, ça implique qu'il faut que les marques, elles veuillent travailler avec toi. Donc, il faut un minimum de vues pour qu'elles veuillent travailler avec toi et tout. Et donc, il faut payer tout ça. Et ça devrait être le seul critère, tu vois. On arrive à faire ça. Et en vrai, ben, c'est un compteur permanent qui est plutôt désagréable. Et j'essaie de faire mon chemin de lâcher ça. Mais on l'est tous, on en parle tout le temps entre nous, on est tous sujets à ça, plus ou moins fort, mais c'est chiant, ouais, c'est vraiment chiant. Moi, je serais trop ravie que, comme pour Instagram a fait un moment pour les likes, là, YouTube, il nous coupe le compteur visible. Mmh. Toi, tu pourrais savoir à l'intérieur et te comparer juste avec toi-même, mais qu'on ne voit plus, ce serait bien plus reposant pour plein de raisons, je trouve.
C'est quoi la proposition de sponsor la plus chelou que tu as reçue ?
J'ai plein, tu sais, de spam, de fausses propositions. Enfin, c'est pas des fausses propositions, mais c'est des jeux mobiles, des trucs comme ça. Ça, y en a tout le temps. Non, le truc le plus chelou que j'ai reçu récemment, c'est une demande de fan. Très chelou. Ça, c'est autre chose qu'un placement de produit, mais genre vraiment, j'étais pas prête. Il y a une meuf qui m'a dit, elle m'a envoyé un vocal pour me dire. Coucou, en fait, pour X raisons, je ne vais pas trop étaler sa vie, mais voilà, je ne peux pas avoir d'enfant. Je fais une procédure avec mon mec. Ouais, tu vois venir. Est-ce que... elle m'a dit, on t'a choisi.
Bravo!
Et du coup, elle voulait que je donne mes ovocytes.
Ah, je pensais qu'elle voulait ton utérus, tu vois. Genre.
Ouais, non, que je lui donne... Ça j'étais pas prête. Franchement, c'était... J'ai regardé mon plafond pendant 2 heures, je te jure, vraiment. Non, mais c'est vrai. Genre, vraiment, j'étais choquée de la...
Chez le gynéco, en se faisant enlever.
Du degré d'intrusion et de... auquel elle s'est dit que je pouvais être disponible, tu vois. Au point de faire une opération lourde, de donner mon ADN à une inconnue et tout. C'est ouf, une requête pareille, tu vois. Et en plus, c'est un peu tourné, voilà, sur le ton de... On t'a choisi, enfin... Bon, voilà, bref. Mais ça, c'est le truc le plus récent.
Ouais, ça, et j'avoue, c'est du gros sponsor.
Et franchement, tu vois, il y a des. Tu sais, on a des potes, ils font. Ah, putain, il y a quelqu'un qui s'est fait tatouer un truc de moi. Et déjà, je trouve ça bizarre de ouf. Genre.
Wait t'sais... for it.
C'est arrivé ?
Non.
Ok. Non, mais déjà, c'est un truc, tu vois, genre, c'est gravé. Enfin, ouais. Voilà. Là, j'avoue, j'aurais même pas imaginé le scénario, ce truc le plus bizarre qu'on m'ait demandé.
Peut-être c'était un prank. Peut-être là, il y a une meuf dans un podcast, elle est en train de dire « Alors, je te jure, j'ai envoyé un vocal à Manon Brie. »
Je préférais. Mais celui-là, j'étais pas prêt. Et ça m'a vraiment... En fait, ça m'a vraiment fait un truc. Tu sais, les gens, ils sont tout le temps en mode « Ah, tu réponds pas à mes messages. » Il y a une espèce d'exigence, de disponibilité qui est, tu vois, des fois pénible. Alors que c'est... Mais c'est quelques personnes. Hein. Tout le monde est trop mignon en général. Et franchement, quel bonheur de... Tu vois, de faire un festival comme ça où c'est trop bonne ambiance et tout, vraiment, sincèrement, au premier degré. Mais ça, une demande comme ça, c'est tellement exigé. Enfin, tu vois, c'est dit, bah ouais, nickel. Elle va dire oui.
Elle oublie que t'es pas la personne que t'es dans les vidéos, quoi.
Oui, j'ai répondu tout ça. J'ai dit, mais en fait, t'as une projection de moi que tu ne sais pas, parce qu'il y avait tout un j'adore qui tu es, je me reconnais dans toi, machin, enfin, tu vois. Donc voilà, ça c'est le truc le plus chelou que j'ai eu. En partenariat, non, que des jeux mobiles claqués ou pas des. Okay. Voilà, pas rien d'aussi croustillant.
D'accord, très déçu. Enfin, quoique, non, vraiment.
Les ovocytes, pas mal quand même.
Oui, les ovocytes, c'est pas mal. T'as quel rapport au réseau ?
On sert beaucoup, c'est mon travail. J'essaye de bien délimiter les temps où, ok, là c'est le moment story, là c'est le moment regarder les messages et répondre.
C'est un moment stalking.
Non, story.
Ah,
story.
Okay. Parce que
là,
je
c'est
ça
le
super.
Moment stalking. Je vais aller checker ce gars qui me plaît, c'est parti. Pas du tout. Non, mais du coup, j'essaye de me dire. Attends, c'est pas maintenant. Enfin, genre, en fait, ça fait partie du travail, donc c'est un créneau dans la. Alors, pas forcément délimité clairement, mais en gros, là, je suis en train de faire du boulot, je réponds, je poste les stories, je poste jusqu'au prochain. J'arrive pas tout le temps. Des fois, c'est envahissant, notamment en vacances ou comme c'est rigolo et avec ma famille, j'en fais plein et j'ai envie parce que ça me fait plaisir et tout ça, c'est poreux. Mais du coup, j'essaie de penser à ça, doucement. On fait des trucs, c'est trop cool de partager, c'est rigolo. Mais le week-end, c'est le week-end ou machin. C'est pas parfait encore, mais je travaille à ça, on va dire. Donc toi,
Moi, j'ai un peu un truc amour-haine avec ça. Genre, ouais. J'adore ça, c'est trop ouais. Marrant et tout. Mais j'y passe tellement de temps et c'est des vortex.
Puis tu parlais de poster toi ou de scroller.
Non, même de poster les trucs, parce que moi, ça me fait marrer et tout. Mais des fois, j'ai l'impression que je passe tellement de temps à faire un truc où, en vrai, on s'en fout, quoi. Tu vois, il y a un peu une pression qu'on se met nous-mêmes de, il faut que, ouais. Personne t'a rien demandé, en fait.
C'est clair.
C'est les gens où on oublie trop souvent que les gens s'en battent les couilles.
Oui, oui, moi aussi, je suis là, mais tout le monde s'en branle de mon, mais oui, carrément.
Voilà.
Mais scroller, par contre, je fais pas énorme. Je scrolle pas trop.
Alors qu'il y a tellement de petits chats trop mignons.
Par contre, il y a des chats trop mignons, ça c'est vrai. À chaque fois que je tombe sur un chat, je me fais avoir. Il y a un petit vortex de réel de chat, mais voilà.
Il paraît que, des fois, tu pars au bout du monde toute seule, YOLO, sac à dos.
Je pars en voyage, t'as
ouais.
Dit ouais, carrément.
Je suppose que c'est grâce notamment aux éclaireurs et éclaireuses.
Peut-être.
Like.
C'est vrai, like. Attention.
T'as pas peur?
En fait, en gros, je l'ai fait dans des destinations, soit que j'avais déjà fait, soit que je savais très safe pour les meufs seules. Je pense que je pourrais avoir peur
le
ailleurs.
Le 11e.
Le fameux 11e, avec ses fromages. Par exemple... J'étais allée en Thaïlande avec des amis. J'avais vu à quel point c'était, en tout cas sur ce plan-là, très très safe. Genre jamais une remarque sexiste, une main au cul, un sifflage ou quoi. Éventuellement de la part des touristes blancs, mais sinon non. Oui, parce qu'ils sont là quand même. Ils sont à la full moon party, donc ils sont bourrés, tu vois. Donc eux, oui. Mais du coup, j'étais allée au Cambodge en sachant que... Et j'avais vu le Vietnam aussi. J'étais allée au Cambodge toute seule en sachant que ça allait être comme ça. Absolument aucun problème de cet ordre-là. Mais je suis allée sans avoir peur de ça. Et aussi, j'adorais le fait de... J'avais vraiment juste pris une nuit d'hôtel en arrivant. Et après, on verra ce qui se passe, tu vois. Mais du coup, au contraire, c'était vraiment très grisant. Et je me suis sentie trop indépendante de faire ça et tout. C'est trop cool. Je pense qu'il y a des destinations où j'aurais peur de le faire, ouais, carrément. Mmh. Ça dépend où. Ça dépend où.
Et de manière générale, de quoi t'as peur?
De mourir, comme tout le monde.
Fair enough. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi.
Ouais. Paraît que on peut pas échapper.
Pas là, mais
peut-être la péniche.
La soirée n'est pas finie.
De Night is Young. Non, j'ai une nature très angoissée, mais j'y travaille parce que bon, ma mère est décédée il y a quelques temps. J'étais déjà une nature angoissée. Ça n'a pas aidé ma peur de la mort et de l'hôpital, on va pas se mentir. Clairement, ça n'a pas fait du bien. Mais du coup, en gros, il s'est passé deux événements difficiles. Il y a eu son décès à l'été 2019. Après, très peu de temps après, j'ai découvert ce fameux MeToo dans lequel j'ai été et tout. Donc j'ai appris tout ça en mars 2020. Donc c'était peu de temps après son décès. Donc il y a eu une autre urgence psychologique dans laquelle je me suis retrouvée qui m'a fait tout enterrer le processus de deuil que j'avais commencé de ma mère, parce qu'il y avait une autre urgence émotionnelle hyper forte, hyper paniquante à gérer, et qui a mis deux ans à aboutir, en gros, tu vois, genre entre le moment où j'ai appris dans quoi j'avais été de quoi j'avais été victime et complice d'ailleurs dans ce MeToo, et le moment où ça a fini par sortir dans Mediapart, il y a eu deux ans. Et donc ça a été ça a pris énormément de place et ça m'a fait tout enterrer mes autres bails. Et donc forcément bon, c'était déjà des raisons d'anxiété suffisantes pour être fatiguée et tout. Mais surtout, du coup, j'étais dans un état
d'anxiété hyper vénère pour tout et n'importe quoi, mais pour tout et n'importe quoi, y compris des dangers qui sont pas du tout imminents pour moi. Par exemple, quand la guerre en Ukraine a été annoncée, mais j'ai passé un mois en PLS, en mode à tout moment on se prend une bombe atomique sur la tête, en fait, à me demander est-ce que je pars, je m'isole, enfin tu vois, genre un niveau de... Alors évidemment c'est anxiogène bien sûr, mais on n'était pas dans ce niveau-là d'urgence, de danger, tu vois. Et moi j'étais terrifiée, tu vois, à me dire ah, quand je suis dans le métro, je suis sous terre, ça va, c'est rassurant, enfin tu vois, genre une anxiété déraisonnée par rapport à la situation, même si encore une fois elle est anxiogène bien sûr. Et ma psy me disait oui, parce que du coup évidemment j'avais un suivi, et j'ai toujours un suivi heureusement, et elle me disait je faisais ouais, oh là là, il faut je suis terrifiée, on fait de l'EMDR, je sais pas si tu vois ce que c'est.
Le MDR?
EMDR, c'est un EMDR.
J'ai rien dit, hein.
Ça veut dire?
J'ai rien dit, mais j'ai hâte de savoir.
Tu connais pas, t'as jamais entendu parler?
C'est quoi les mots?
Ça veut dire eye movement.
Ah non.
Désensibilisation. Bref, en gros, c'est une technique de traitement des traumas, incroyablement efficace, je recommande énormément. Bref, en gros, c'est un truc où tu te plonges dans le souvenir traumatique. C'est un peu de l'hypnose, mais c'est pas du tout une médecine alternative ou quoi, hein. C'est voilà. Je suis très sceptique, donc voilà. En gros, tu dois te plonger dans l'événement traumatique. Et il y a un, soit par un mouvement alternatif des yeux qu'elle te fait faire, où elle te tient un stylo, soit par un tapotage sur les épaules. Oui, c'est très bizarre, je sais, mais en gros, c'est un processus de réorganisation du souvenir de manière gérable. C'est pas qu'il est plus là, évidemment, mais c'est juste que c'est gérable et que ça sort pas n'importe comment avec des PTSD et des triggers dès que, voilà. Tu sais, souvent, le psy, il te dit, ah, ben, c'est ça, votre problème. Et tu fais, oui, d'accord, merci, mais j'en fais quoi maintenant? J'ai la théorie, c'est bien. Mais là, en fait, tu vides l'émotion, en gros. Tu décharges l'émotion, tu désensibilises le souvenir. Et du coup, c'est vraiment un truc où il faut activer l'état dans lequel ça t'a mis. C'est très dur parce qu'il faut te replonger dans le souvenir difficile. Ben voilà, je sais pas si c'est machin, une scène de viol, bidule, un accident de voiture, tu vois, c'est très dur, faut te mettre dedans. Et tu le revis et tu pleures toutes les larmes de ton corps et bidule. Et en fait, à chaque fois, t'as un petit poids qui s'envole. Mais genre vraiment, c'est, pour moi, c'est en tout cas incroyable. Vraiment, c'est ouf comment ça marche.
C'est
trop bien.
C'est juste l'image d'un petit poids, du coup.
Un petit poids vert avec des petites ailes. Et bref, et du coup, en fait, tu désensibilises. C'est un mécanisme qu'on comprend pas encore hyper bien, si j'ai capté, dans le cerveau, qui fait que, en gros, quand t'as un trauma, ton cerveau, il enterre tout n'importe comment parce qu'il est terrifié. Et des fois, ça marche bien. Des fois, plus tard, ça te cause des torts parce que ça a été mal, tu vois. Et donc là, en fait, on accepte de se plonger dans le truc traumatique. Et en fait, au lieu de juste intellectuellement savoir, c'est ça, parce que souvent tu sais, bah oui, je sais, ma mère elle est morte, ok, je sais, c'est un problème, mais voilà, on fait quoi. Mais là, en fait, tu le vis avec ton corps, tu te remets physiquement dedans et tu laisses vivre ces émotions que t'as verrouillées et qui sont pas sorties et qui jusque là, me disait ma psy, du coup, en fait, c'est votre tristesse qui parle, qui ressort en anxiété. Comme vous l'avez verrouillée parce que un milliard de très bonnes raisons, entre c'est très dur de perdre sa maman si tôt et une autre urgence émotionnelle à traiter, du coup vous l'avez verrouillé, vous pouvez pas être triste, bon je l'ai été mais pas à la hauteur d'eux, et en fait le corps il le fait ressortir autrement, donc vous êtes terrifié par des trucs qui sont pas vraiment votre problème. La guerre en Ukraine, c'est, ça fait peur, mais c'est, en vrai là tout de suite maintenant c'est pas vraiment votre problème. Ou moi je sais pas, je suis terrifiée en voiture, ou j'ai tout le temps peur, quoi, tu vois. Et donc je disais oui, non mais c'est ça mon souci, il faut qu'on travaille ici. Elle faisait oui, on va travailler ça, on va enlever ces couches-là. Et après, quand on a enlevé ces petites couches de rien du tout et qu'on les a désensibilisées, elle a fait « On s'occupe du deuil de votre mère maintenant ?» Je fais « Oh, pff, qui a le temps de pleurer sa mère, putain ?» Voilà. Et du coup, en vrai, on a commencé et ça a fait un bien fou et c'est incroyable. Et depuis que je fais ça, donc c'est, après c'est un travail quand même, ça fait, il faut pas deux séances pour faire ça, mais voilà. Depuis que je fais ça, j'ai vraiment genre... En fait, je me rends compte que ces pensées obsessionnelles d'angoisse, parce que du coup, moi, ça se traduit vraiment par des pensées obsessionnelles de « je décroche pas », tu vois, « je suis terrifiée jusqu'à ce que je m'endorme », tu vois. Et ben en fait, elles sont de moins en moins présentes. Ou elles, par exemple, moi, je suis la meuf qui, quand elle rentre dans un train, il y a un bagage abandonné, enfin, seul, pas abandonné, mais seul, et je vais passer le trajet à faire « je dois le signaler ou pas ?» Non, ok, c'est normal. Non, c'est normal. Tu vas faire chier tout le monde. Je vais pas le signaler, mais je vais passer le trajet à stresser. C'est débile. Et à la fin, il y a Jean-Marc qui ramasse son sac et je fais. Oh.
Évidemment.
Évidemment. Voilà. Et ben là, tu vois, la dernière fois, je suis rentrée dans un train. Il y en avait un. Ça m'a tracassé 10 minutes et après j'ai fait « Mais non, c'est ton anxiété qui parle parce que tu n'as pas encore assez pleuré ta mère. » Et voilà, et franchement, et c'est passé. Et bref,
c'est vrai, c'est une campagne SNCF.
Pleurez votre mère.
Arrêtez d'oublier vos bagages.
Pleurez votre S'il vous plaît. Putain. Bon bref, et du coup, nature très très anxieuse de base déjà, qui s'est aggravée avec les trucs que j'ai vécu dernièrement. Mais qui en fait est en train de se résorber tout doucement, ça me fait un bien fou, ça marche très très bien. Je vous recommande le MDR si jamais. Voilà, pardon, j'ai fait un tunnel. Mais du coup, j'ai peur de ça. En fait, c'est pas j'ai peur d'un truc précis, c'est j'ai peur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai compris pourquoi. C'est pas parce que j'avais peur, c'est parce que j'étais triste que ma mère soit morte, mais que j'avais pas pu la pleurer suffisamment. Non pas que j'ai pas pleuré, mais tu vois. Et du coup, le corps il exprime autrement. Et il dit, on va pas bien, écoute-nous, on va pas bien. Et moi, je suis là, non, pas du tout, ça va très bien, il faut juste finir ce montage. Et voilà. Et du coup, le corps, il fait, non, on va pas bien, écoute-nous. Et bref. Et donc, en pleurant ces trucs-là, à chaque fois, en fait, le taux d'anxiété il diminue et c'est un bonheur. C'est long comme réponse. Sorry.
C'était fini il y a 4 minutes, donc.
Oh, pardon.
On commence à me jeter des regards.
Désolée.
Faut quand même qu'on en parle. Quid de la scène ?
Putain, en plus, t'as vu la première, toi.
Oui.
T'as vu la... Putain, je suis dégue que t'aies vu ça en vrai, parce que forcément, c'était ma première et...
Bah franchement, c'était pas... pour une première...
Ouais, évidemment, tu vas dire ça, bien sûr.
En même temps, là, devant, je sais pas, 200 personnes, je vais pas te dire, écoute, faut qu'on en parle. C'était nul à voilà. Chier.
On en parlera après. Non mais oui, carrément, je commence doucement le stand-up, mais très doucement en vrai, parce que je joue genre 3-4 fois dans le mois, donc c'est pas beaucoup pour progresser. J'ai eu les premiers passages en terreur totale, notamment celui que t'as vu, mais je m'y attendais pas à ce point.
À stresser, à...
Ah ouais, ouais. Ah non, mais la panique, mais incroyable. Et c'est fou parce que j'ai fait de l'impro longtemps, une dizaine d'années à Toulouse, donc j'ai fait jouer dans des caves. Du coup, je connais ce truc de t'es un peu stressé avant de monter. En plus, l'impro, c'est quand même un exo, tu vois, pas facile, quoi. Mmh. Donc là, je me disais, ça va être pareil. Et en fait, les 4-5 premières fois, une terreur, mais alors j'avais méga bossé mon texte et du coup tu vois la première que t'as vue, du coup j'ai juste débité hyper vite pour que ce soit fini le plus vite possible et mon but c'était ok, il ne faut juste pas tomber dans les pommes. Voilà,
c'est un bon objectif, hein,
oui,
parce que ça nique l'ambiance,
ça nique l'ambiance de ouf.
Franchement,
non mais c'est vrai, ne crevons pas sur scène, ok. Et après j'ai fait première fois avec Yacine qui est Yacine, le best, et c'était ouf, et c'était un trop bon endroit et ça m'a décoincé un truc de confiance. Et maintenant j'ai un stress qui est quand même là clairement, mais qui est plus normal. Et je commence à tout juste toucher du doigt le si je mets un silence là, en fait il peut y avoir un rire. Enfin tu vois, que je découvre à peine, j'effleure à peine le truc de jouer avec le texte. Mais il faudrait que je joue beaucoup plus pour j'ai pas encore le temps. Mais mon but à long terme, c'est pas tellement de faire du stand-up, c'est plutôt de faire un spectacle d'une conférence marrante, tu vois. Donc ça va être plus contenu avec des vannes que phrase blague. Mais du coup, c'est un bon exercice que je fais en attendant pour m'habituer à ça.
Et qu'est-ce que tu veux mettre sur scène que tu ne peux pas mettre dans les vidéos ?
Je sais rien. Je pense que je vais reprendre.
Top, merci
beaucoup...
Manon.
Non, mais je pense que je vais reprendre beaucoup de trucs qui sont dans les vidéos. Par contre, ça va être plus marrant quand même. Genre mes vidéos, elles sont un peu. En vrai, elles sont un peu marrantes.
Écoute,
mais...
ouais, c'est une intervention. On est là pour te dire que c'est pas ouf.
Shit. Non, enfin, tu vois, en tout cas, c'est pas. C'est vraiment du contenu, quoi. C'est. Ça reste. Même si on dit des gros mots et qu'on essaye de pas être académique, c'est pas. C'est pas un spectacle ou quoi. Je vais reprendre des infos que j'ai mis dans les vidéos, mais les articuler tous ensemble pour ce grand projet qui est montrer que la tradition est une illusion. C'est ça mon fil rouge. Voilà.
Tradition est une illusion.
Ouais. Bah, ce truc qui me fascine, de les codes sociaux, ça bouge tout le temps. Et les conservateurs qui adorent l'histoire ont tort de dire oui, si la tradition, ça doit pas changer. C'est faux, ça change, qu'on le veuille ou non. Donc, la tradition est une illusion, c'est ça le. Truc que je veux faire pâtir.
Et t'as une idée de moment où...
Le caca à Rome. On a parlé de ça tout à l'heure, pardon, t'étais pas là. Oui, on parlait du fait que les... Bah si, je t'en ai parlé tout à l'heure.
Oui, oui, mais j'avais demandé juste à quel moment tu comptais avoir du temps pour faire le spectacle.
Oui. Et moi, je t'ai répondu du caca, je comprends mieux ton visage. Je comprends mieux.
C'est quoi que tu bois ?
C'était abrupt. C'est le cocktail qui est là-haut.
Mais j'adore.
Je t'en passerai. Oui, C'était un problème, oui, quand on fait ça, carrément. Mais toi, tu fais mille trucs aussi, tu y arrives bien.
En vrai, c'est trop impressionnant. Tu suffis de
tout bâcler. Ah, c'est ça.
C'est
faux en plus.
Non,
jamais de la life.
Non, quand c'est bâclé, en général, je le partage pas, donc les gens sont pas au courant.
Bah, franchement, ton livre, encore une fois, j'ai vraiment kiffé et j'aime pas lire. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Vraiment. Sinon, je ferais juste.
Il y a des grosses marges, hein.
Non, mais. C'est pas grave, il est trop. Je dirais rien sinon j'aurais fait merci Fanny pour ton livre. Non, mais grave, c'était. Bref, donc tu écrire un livre, c'est incroyablement long. Faire des chroniques tous les je sais pas combien, c'est incroyablement long.
Mais donc,
un spectacle.
Tu n'as pas d'idée de quand tu vas le faire.
Je pense que je vais essayer d'écrire cet été, de prendre une session cet été pour écrire. Mmh. Et après, il faudra jouer et bidule.
D'accord. Mmh.
C'est pas pour tout de suite. Mais je le digère. Je le digère doucement.
Bien. Dernière question avant de devoir rendre
l'antenne très en retard.
L'antenne, absolument. C'est quoi le dernier truc que t'as appris à ton sujet ?
Que j'avais été choisie pour ces opposites. À mon sujet. Je sais pas. Donne-moi un exemple de toi.
Je sais pas, genre, j'ai appris qu'en fait, je pensais que j'étais pas capable de ça et je suis capable. Tu vois, genre de
et
manger
toi, c'était
12
flans.
Non, je sais pas. J'ai appris que j'étais plus capable de m'ennuyer que ce que je pensais.
Oui.
Avant, ça me stressait de ouf. Et en fait, maintenant, je me dis, peut-être ça peut avoir du bon.
Oui. Tu trouves pas que quand on s'ennuie, on a des idées ?
Si, de ouf.
Oui.
Mais du coup, il y a peut-être un peu ce truc calculateur de me dire, attends, comment je vais m'ennuyer, avoir plein d'idées.
Non, mais grave, c'est ça. Ça fait du bien, le vide, pour ça.
Ouais.
Ouais. Et ben. Moi, j'ai appris que apparemment, je pouvais organiser un festival, que les gens seraient au rendez-vous. En vrai. En vrai, vraiment très émue de cette journée. Genre, c'est trop. Bah, merci, merci d'être là et c'est trop génial et vous êtes au rendez-vous, tout se passe bien. Enfin.
Pour l'instant,
trop heureuse. La nuit n'est pas finie.
Merci beaucoup, Manon.
Merci, Fanny.
J'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous trouverez en description tous les endroits où retrouver Manon Bril sur Internet, ses réseaux, sa chaîne YouTube, tout ça, tout ça. N'hésitez pas évidemment à aller la voir sur scène. Elle annonce régulièrement sur son Insta les plateaux auxquels elle est programmée. Et puis un immense merci à toute l'équipe du Culture Fest, particulièrement à Julie Manoukian, à la coordination, ainsi que Jean Fromageau et Hugo Cardona à la technique. Et puis si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner via Apple Podcasts, Spotify, Deezer, tout ça, voire à me suivre moi sur les réseaux @FannyRuet sur Facebook, Twitter, Instagram. Surtout sur Instagram, c'est là que je poste le plus de trucs. Prochain épisode des gens qui doutent très bientôt. D'ici là, des bisous. Et des bisous aussi au fabuleux Maxime Moitieu qui a mixé cet épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.